Pour moi, sans doute, l'exil a été très, très utile.
Mario Vargas Llosa.
D'abord, je ne sais pas si j'aurais devenu un écrivain sans l'exil. Parce que c'est pas au Pérou, c'est en Espagne, en 1958, quand je suis dit, enfin, je vais essayer d'être un écrivain. C'est-à-dire, je vais organiser ma vie autour de cette décision.
Ça peut pas faire de mal.
Et c'est l'Europe qui m'a donné la force pour un choix qui n'était pas facile. D'autre part, je crois que l'Europe m'a donné une vision, n'est-ce pas, de la littérature beaucoup plus responsable, beaucoup plus engagée que celle que j'aurais pu avoir sans sortir du Pérou.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Écrire un roman, c'est comme se déshabiller, faire un striptease. La jeune femme, sous d'un pudique projecteur, se libère de ses vêtements, révélant un à un ses charmes secrets. De même, l'écrivain dénude publiquement son intimité à travers ses romans. Avec certes quelques différences, car ce ne sont pas ses charmes secrets que le romancier expose à la vue, comme la fille délurée, mais les démons qui le tourmentent et l'obsèdent, et de fait, la part la plus laide de lui, ses nostalgies, ses fautes, ses rancœurs. Et puis, dans un striptease, la fille est d'abord habillée pour se dénuder à la fin, alors qu'à l'inverse, chez le romancier, nu au départ, il se rhabille à l'arrivée. Les expériences personnelles vécues, rêvées, perçues ou lues qui l'ont poussé initialement à écrire cette histoire, voilà qu'elle se déguise malicieusement au cours de la création, au point que le roman achevé, personne, pas même parfois le romancier, ne parvient à entendre ce cœur autobiographique qui fatalement bat dans toute fiction. Écrire un roman est en fait un striptease à l'envers, et tous les romanciers sont allégoriquement, parfois explicitement, des exhibitionnistes.
Il y a comme quelque chose d'obscène, n'est-ce pas, à montrer cette intimité. Hein, parce que c'est un travail qui est très intime en même temps. Hein, on travaille avec une matière qui est enterrée dans la personnalité la plus secrète de chacun.
Ce romancier au tempérament exhibitionniste est une grande personnalité de la littérature hispanique contemporaine. Il s'agit de Mario Vargas Llosa, né au Pérou en 1936, révélé en 1963 par un premier roman qui a fait scandale, La ville et les chiens, que j'ai eu le plaisir de vous lire la semaine dernière. L'écrivain péruvien est aujourd'hui le seul auteur étranger à entrer de son vivant dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Après La ville et les chiens, citons Conversation à la cathédrale, paru en 1969, La guerre de la fin du monde, en 1981, La fête au bouc, publié en l'an 2000. Des œuvres magistrales qui dénoncent la violence des dictatures en Amérique du Sud, aussi bien dans son pays natal, le Pérou, qu'au Brésil ou en République dominicaine. Si sa critique des idéologies politiques a été saluée par le prix Nobel de littérature en 2010, le romancier est lui-même un personnage à la vie romanesque qui aime se mettre en scène dans ses écrits. Adolescent, il est marqué par la figure tyrannique du père. Jeune homme, il se révèle un grand amoureux des femmes. Ce soir, poursuivons notre voyage dans l'écriture foisonnante de Mario Vargas Llosa, afin d'y déceler, comme il nous y invite lui-même, les éléments autobiographiques qui se sont glissés sous sa plume. Commençons par l'évocation d'un lieu pittoresque qui a marqué l'adolescence du jeune Vargas Llosa, une mystérieuse maison verte. La maison verte est le titre du second roman de l'écrivain, publié en 1965, deux ans après La ville et les chiens. Nous voici à l'extrême nord du Pérou, dans la ville de Piura, où la famille maternelle de l'auteur s'installe en 1946 pendant un an. Le jeune Mario a 10 ans. Son père les ayant abandonnés à sa naissance, l'enfant grandit entouré de femmes, sa mère, sa grand-mère, ses tantes. Il entend parler d'un lieu de mauvaise vie, à l'écart de la ville, aux portes du désert. Découvrons la description qu'il fera 13 ans plus tard de cette maison des fantasmes, devenue maison fantôme. On a tellement parlé à Piura de la primitive maison verte, cette maison mère que personne ne sait plus avec exactitude comment elle était réellement, ni les authentiques détails de son histoire. Les survivants de cette époque, très peu nombreux d'ailleurs, s'embrouillent et se contredisent, et ils ont fini par confondre ce qu'ils ont vu et entendu avec leurs propres élucubrations. Quant à ceux qui ont joué un rôle, ils sont si décrépits, leur mutisme est si obstiné qu'il serait inutile de les interroger. En tout cas, l'originelle Maison Verte n'existe plus. Il y a quelques années encore, dans les parages où elle s'était élevée, la portion de désert limitée par Castilla et par Catacaos, on trouvait des morceaux de bois et des objets domestiques carbonisés. Mais le désert, puis la route qu'on y a construite et les petites propriétés qui ont surgi dans le coin ont fini par balayer tous ces restes. Et maintenant, il n'y a plus un habitant capable de préciser dans quelle partie du sablon jaunâtre elle se dressa, avec ses lumières, sa musique, ses rires et cet éclat diurne de ses murs qui, à distance et la nuit, la transformait en un reptile carré et phosphorescent. Dans les histoires mangaches, on dit qu'elle se trouvait aux abords du vieux pont, sur l'autre rive, qu'elle était très grande, le plus grand des édifices d'alors, qu'elle avait des tas de lampes de couleur accrochées à ses fenêtres, que leur lumière faisait mal aux yeux, colorait le sable tout autour et éclairait même le pont. Mais ce qu'elle avait de plus remarquable, c'était la musique qui, ponctuellement, débutait à la tombée du soir, durait toute la nuit et se faisait entendre jusque dans la cathédrale. Don Anselmo, dit-on, parcourait infatigablement les bars, les chicherias de quartier et même celles des villages voisins à la recherche d'artistes. Et de partout, il ramenait des guitaristes, des batteurs de tambours, des racleurs de mâchoires d'âne, des flûtistes, des maîtres de la trompette et de la grosse caisse. Mais jamais des harpistes, car c'était lui, le patron, qui jouait de cet instrument, et sa harpe présidait, unique, à la musique de la Maison Verte. On aurait dit que l'air était devenu empoisonné, disaient les vieilles sur la promenade du Malecón. La musique entrait partout. On avait beau fermer les portes et les fenêtres, on l'entendait en mangeant, on l'entendait en priant et même en dormant.
Et il fallait voir la tête des hommes quand ils l'entendaient, disaient les bigotes s'étouffant derrière leur voile.
Fallait voir comme la musique les arrachait à leur foyer, comme elle les lançait à la rue et les entraînait vers le vieux pont.
Et ça ne servait à rien de prier, disaient les mères, les épouses, les fiancées, à rien de pleurer, de supplier, ni les sermons des pères, ni les neuvaines, ni même les retraites.
Nous avons l'enfer à nos portes, tonnait le père Garcia, le premier venu s'en apercevrait. Mais vous, vous êtes aveugle. Un Piura, c'est Sodome et c'est Gomorre.
C'est peut-être bien vrai que la Maison Verte nous a apporté le mauvais sort, disaient les vieux en se pourléchant les babines. Mais qu'est-ce qu'on y prenait du bon temps, putain ? Au cours des quelques semaines qui suivirent le retour à Piura de Don Anselmo avec la caravane de ses pensionnaires, la Maison Verte s'imposa. Au début, les visiteurs quittaient la ville à la dérobée. Ils attendaient l'obscurité, traversaient discrètement le vieux pont et s'enfonçaient dans les sablons. Puis les incursions augmentèrent et les jeunes gens, de plus en plus imprudents, se moquèrent d'être reconnus par les femmes aux aguets derrière leurs persiennes. Dans les masures et les salons, dans les haciendas, on ne parlait que de ça. Le père Garcia stigmatisait la licence à grand renfort de citations bibliques. Les hommes les plus sobres, les plus travailleurs et les plus droits tombèrent. Dans la ville, naguère tellement silencieuse, le bruit et l'agitation nocturne s'installèrent comme un vrai cauchemar. À l'aube, quand la harpe et les guitares de la Maison Verte se taisaient, un rythme indiscipliné s'élevait de la ville jusqu'au ciel. Ceux qui rentraient parcouraient les rues en riant à gorge déployée et en chantant. Les gaillards affichaient la fatigue des nuits blanches sur leurs visages marqués par les morsures du sable. Et au café de l'Étoile du Nord, on relatait d'époustouflantes anecdotes qui couraient de bouche en bouche. « vous voyez, disait le père Garcia avec des trémolos dans la voix, tous les mots du monde se conjuguent sur notre tête. » Car il est certain que tout cela coïncida avec des malheurs. La première année, le Piura déborda. Et à tel point qu'il emporta les digues des jardins maraîchers, des bêtes périrent noyées et les hommes juraient. L'année suivante, comme en représailles contre les injures que lui avaient adressées les propriétaires des terres submergées, le fleuve n'entra pas en crue. Le lit du Piura se couvrit de broussailles et il ne resta qu'une longue déchirure, une plaie desséchée. La troisième année, les épidémies décimèrent les récoltes.
« Tels sont les désastres qu'engendre le péché !» rugissait le père Garcia. « Il est encore temps, l'ennemi est dans nos veines, tuez-le avec des prières !»
Les sorciers des chaumières arrosaient les semis de sang de cabri, se roulaient sur les sillons, proféraient des conjurations pour attirer l'eau et faire fuir les insectes. Mais ni les inondations, ni la sécheresse, ni les épidémies ne mirent de frein à la gloire grandissante de la Maison Verte.
Et columna, cubrirse! Firme! Section! Descanso! Section! Prision!
Découvrons les autres démons qui hantent l'œuvre de Mario Vargas Llosa. À travers la corruption des mœurs, l'auteur dénonce un mal plus radical, la corruption politique des dictatures. Après la Maison Verte, rendons-nous au café La Cathédrale, un bar des quartiers pauvres de Lima que le jeune Vargas Llosa fréquente alors qu'il est encore étudiant et apprenti journaliste. C'est là que se situe l'intrigue de son troisième roman, Conversation à la Cathédrale, publié en 1969. Roman de la maturité, cet immense récit polyphonique qui mêle les époques et les personnages dans un dialogue vertigineux est une condamnation des 8 années de dictature du général Odría qui a dirigé le Pérou de 1948 à 1956. Dans le passage suivant, l'écrivain évoque son passé de militant communiste et s'inspire d'un fait réel. À l'âge de 16 ans, il a rencontré le ministre de l'Intérieur en exercice afin de faire libérer ses amis étudiants emprisonnés après avoir fait grève. Dans le roman, son héros, Zavalita, un journaliste désabusé, se souvient de son arrestation quand il avait 16 ans. Son père à l'époque, Don Fermín, un notable soumis au régime en place, le sort des griffes d'un certain Bermúdez, le redoutable chef de la police, un métis voué aux basses besognes. Un couloir plein de portes, de marches, un couloir carrelé qui tournait et descendait, un garde avec un fusil devant une fenêtre. « Entrez là !» entendit-il. Une grande pièce presque dans le noir, un bureau avec une petite lampe sans abat-jour, des murs nus, une photo d'Odría drapée dans l'écharpe présidentielle comme un bébé dans ses langes. Il recula, regarda sa montre, minuit et demi, et soudain, lui vint, les jambes molles, une envie de pisser. Un moment après, la porte s'ouvrit. « Santiago Zavala ?» dit une voix sans visage. « Oui, l'individu est là, monsieur. » Des pas, des voix... Le profil de Don Fermín qui traversait le cône de lumière de la lampe, ses bras qui s'ouvraient. Son visage contre mon visage, pense-t-il. « Tu vas bien, Gringalet ? On t'a rien fait, Gringalet ? Rien, papa. Je ne sais pas pourquoi on m'a emmené ici. Je n'ai rien fait, papa. » Don Fermín le regarda dans les yeux, le serra à nouveau contre lui, le lâcha, eut un demi-sourire et se retourna vers le bureau où l'autre s'était déjà assis et l'interpellait. « Vous voyez, Don Fermín ? » On apercevait à peine son visage, Carlitos. Une petite voix traînante, servile. « Voilà votre héritier sain et sauf. » Ce petit n'en finit pas de me donner des maux de tête. Le pauvre voulait être naturel et il était théâtral, et même comique, Carlitos. Don Fermín lâcha un petit rire gêné, s'assit sur un coin du bureau, et Cayo Bermúdez se leva. C'était donc lui. Il était donc cela. Un visage sec, parcheminé, inexpressif. « Voyez dans quel sale drap vous vous êtes fourré, jeune homme !» Avec amabilité, Carlitos, comme s'il en était désolé. « Pour vous être consacré à la politique au lieu de vos études. »« Moi, je ne fais pas de politique, » dit Santiago. « J'étais avec des copains, on ne faisait rien de mal. » Bermúdez s'était penché pour offrir une cigarette à Don Fermín, qui aussitôt, avec un petit sourire factice, aspira avidement la fumée et toussa, content de faire quelque chose qui dissimule son malaise. Carlitos, sa terrible gêne. Bermúdez regardait les rondes fumées avec ennui, et soudain son regard croisa celui de Santiago. C'est bien qu'un jeune homme soit rebelle, impulsif, comme s'il se fichait éperdument de ce qu'il disait, Carlitos. Mais conspirer avec les communistes, c'est tout autre chose. Ne savez-vous pas que le communisme est hors la loi? Imaginez-vous si on vous appliquait la loi de sûreté intérieure. Voyons donc, Cayo, l'interrompit le père. La loi de sûreté intérieure n'est pas pour des morveux qui ne savent pas où ils mettent les pieds. Avec une fureur contenue, Carlitos, contenant son envie de le traiter comme un chien, un larbin. S'il vous plaît, Don Fermín. Comme scandalisé, Carlitos, qu'il ne comprenne pas ses plaisanteries.
pas pour les morveux et encore moins pour le fils d'un ami du régime comme vous. N'exagérez pas, Don Caillou, mon fils ne conspire pas, et moins encore avec des communistes. Mais qu'il le raconte lui-même, Don Fermin. Que faisait-il dans ce petit hôtel du Rimac? Qu'est-ce que cette fédération? Et cette feuille de chou avec ses horreurs sur les États-Unis, sur le président Audriat, sur moi? Nous les laissons jouer à la Révolution, à ce qu'ils voudront, pourvu qu'ils ne passent pas les bornes. Comme si j'étais parti, Carlitos, ou n'avais jamais été là. Mais une grève politique de soutien aux chauffeurs de tramway, ça, non! La grève n'est pas politique, dit Santiago. Ce sont les étudiants qui... Ce jeune homme est délégué de la fédération, délégué au comité de grève. Sans m'écouter ni me regarder, Carlitos, en souriant à mon vieux comme s'il lui racontait une blague. Et membre de CAUID, c'est ainsi que s'appelle l'organisation communiste depuis des années. Deux de ceux qui ont été arrêtés avec lui ont un casier chargé. Ce sont des terroristes notoires. On n'avait pas le choix d'en faire mine. Mon fils ne peut rester en état d'arrestation, ce n'est pas un délinquant. Ne se contenant plus, Carlitos, tapant sur la table, haussant la voix. Moi, je suis un ami du régime, et pas d'hier, de la première heure. Et on me doit de nombreux services. Je vais en parler sur le champ au président. Don Fermin, s'il vous plaît. Comme blessé, Carlitos, comme trahi par son meilleur ami. Je vous ai appelé pour arranger ça entre nous. Je sais mieux que personne que vous êtes un ami du régime. Je voulais vous informer des errements de ce jeune homme, rien de plus. Bien entendu qu'il n'est pas en état d'arrestation. Vous pouvez l'emmener tout de suite dans Fermin. Je vous en suis très reconnaissant, Don Caillou. À nouveau confus, Carlitos, passant son mouchoir sur sa bouche, s'efforçant de sourire. Ne vous inquiétez pas pour Santiago, je me charge de le remettre dans le droit chemin. Ils sortirent. La cour, la façade de la préfecture, les grilles, l'air pur... L'avenue, la voiture était en bas des marches. Ambrosio enleva sa casquette, ouvrit la portière. « À la maison, vite !» dit Don Fermin. La voiture fila vers l'avenue Wilson, tourna en direction de l'Arequipa, en accélérant à chaque carrefour, et par la fenêtre pénétrait tellement d'air, ça valita, pour respirer, pour ne pas penser. « Ce fils de pute va me le payer !» Son visage excédé, pense-t-il, ses yeux fatigués qui regardaient droit devant eux. Ce cholo de merde va pas m'humilier comme ça. Je vais lui apprendre à parler à ses maîtres. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait passer ce mauvais moment, papa. Je te jure que... Et sa tête se tournant soudain vers lui, pense-t-il, et la gifle qui te clouait le bec, Savalita. La première fois, la seule qu'il m'ait frappé, dit Santiago. Tu te rappelles, Ambrosio? Toi aussi, reprit le père, tu as des comptes à me rendre, morveux. Sa voix devenue un grognement. Tu ne sais pas que pour conspirer, il faut être malin. Crétin, ton téléphone était sur écoute. Ils avaient enregistré au moins 10 conversations de moi avec les gars de CAUID, Carlitos. Bermudez les avait fait écouter à mon vieux. Il se sentait humilié. C'est ce qui lui faisait le plus mal. Je crois que je me suis jamais senti aussi amer que le jour de ce bordel, dit Santiago. Parce qu'on avait mis mes amis en prison à cause de moi. Parce qu'on m'avait relâché et eux pas. Parce que je voyais mon vieux dans cet état. Je m'en tape que tu sois communiste. À nouveau furieux, pense-t-il, sans me regarder. Que tu poses des bombes, que tu voles ou tues. Mais après tes 21 ans, jusque-là tu ne vas faire que ça. Étudier et seulement étudier. Obéir. Seulement obéir. Il pense là. Ça ne t'est pas venu à l'esprit que tu allais démolir les nerfs de ta mère. Il pense, non, que tu allais mettre ton père en difficulté. Non, Zavalita, ça ne t'était pas venu à l'esprit. L'avenue Angamos, la Diagonale, la Quebrada, Ambrosio cramponné à son volant. Non, ça ne t'est pas venu à l'esprit. Parce que c'était pratique, tout rose, n'est-ce pas? Ton petit papa t'assurait le gîte et le couvert. Ton petit papa payait tes frusques et tes études. Et pendant ce temps, toi, tu jouais aux communistes. Toi, tu conspirais contre les gens qui donnaient du travail à ton petit papa. Ah non, putain, pas ça. Pas la gifle, papa, pense-t-il. C'est ce qui m'a fait le plus mal.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Quantas vueltas para llegar siempre al mismo sitio, la soledad de este precipicio del que saltar como piedra inerte. cuánta gente, cuánta ansiedad viven sus latidos y cuántas guerras sufren sus mentes, cuánto dolor duele sin sentido. Entre el vértigo que da vivir tan rápidamente, tan lejos de ti, tan lejos de sí, tan lejos que es difícil la felicidad si todo es tan ajeno a ti que apenas te sientes. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Oh, óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo. Suéltalo, malo, y déjalo correr, que estás en vuelo. Oh, óyeme, ponte en talla y vámonos de aquí pa'l cielo. Suéltalo, déjalo correr, suéltalo, que estás en vuelo. Suéltalo, suéltalo, malo, de aquí pa'l cielo.
Après ses premières expériences politiques, le jeune Vargas Llosa provoque à nouveau la colère de son père dans un tout autre registre.
Attention, on prend l'antenne dans 5, 4, 3, 2, 1.
Nous sommes toujours à Lima en 1955. Étudiant et journaliste, le futur écrivain gagne sa vie comme rédacteur des informations pour la radio péruvienne. Mais le jeune homme ne se borne pas à étudier et obéir, loin de là. Un nouveau scandale l'oppose bientôt à son père. À l'âge de 19 ans, Mario rencontre celle qui deviendra sa première épouse, Julia Urquidi, 32 ans, divorcée, qui n'est autre que sa tante par alliance, la sœur cadette de sa tante Olga. Le coup de foudre est immédiat. Encore mineur, Mario s'oppose à l'autorité paternelle et falsifie son acte de naissance afin de se marier en secret et fuir à l'étranger. Cette aventure sentimentale digne des plus grands mélos fait l'objet d'un roman au ton burlesque, Tante Julia et le Scribouillard, paru en 1977. Cette fantaisie autobiographique est aussi un éloge de l'écriture sous toutes ses formes, romanesque, journalistique et surtout radiophonique, puisque le héros y rencontre un célèbre auteur de feuilletons radio, ces fameux soap opéra latino qui ont conquis des générations d'auditeurs. Découvrons dans l'extrait suivant la toute première rencontre entre l'apprenti écrivain et la sémillante Tante Julia. J'avais toujours été curieux de savoir quelles plumes concoctaient ces feuilletons qui peuplaient les après-midi de ma grand-mère. Ces histoires dont on me rebattait les oreilles chez ma tante Laura, ma tante Olga, ma tante Gabi ou chez mes nombreuses cousines quand j'allais leur rendre visite. Notre famille était biblique, très unie et des beaux quartiers de Miraflores. Je me doutais que les feuilletons radiophoniques étaient importés, mais je fus surpris d'apprendre que les généraux, directeurs de la radio de père en fils, ne les achetaient pas au Mexique ni en Argentine, mais à Cuba. Ils étaient produits par la CMQ, une sorte d'empire radio-télévisuel qui représentait quelque chose de mythique, tout comme Hollywood à cette époque pour les cinéastes. Je m'imaginais parfois cette armée de polygraphes qui, là-bas, en la lointaine Havane, aux palmiers, plages paradisiaques, pistoleros et touristes, devaient produire 8 heures par jour sur des silencieuses machines à écrire ce torrent d'adultères, suicides, passions, rencontres, héritages, dévotions, hasards et crimes qui, depuis l'île antillaise, se déversaient sur l'Amérique latine pour meubler d'illusions les après-midi des grands-mères, tantes, cousines et retraités de tous les pays en se cristallisant dans les voix de leurs acteurs fétiches, Luciano Pando et Josefina Sanchez.
Traumatisé de voir sa sœur Elena enceinte de ses œuvres, épouser Elmore Dubuc, Richard Quince fuit la maison familiale pour entrer dans les ordres et soigner les lépreux.
Richard, qu'est-ce que tu racontes, mon petit ?
C'est vrai, ça m'est égal. Ça m'est égal qu'on le sache.
Je m'amusais énormément à épier les interprètes au moment de l'enregistrement. Gennaro Fils me les montrant du doigt à travers les vitres du studio où, comme dans un grand aquarium, texte en main, on les voyait alignés autour du micro.
Je ne comprends pas. J'aime Elena comme une femme. Je l'ai.
Quelle déception pour ces ménagères émues par la voix de Luciano Panno si elles avaient vu son corps contrefait et le strabisme de son regard. Et quelle déception pour ces retraités chez qui le murmure musical de Josefina Sanchez éveillait des souvenirs s'ils avaient pu apercevoir son double menton et sa moustache. Gennaro Fils achetait les feuilletons au poids et par télégramme. C'est lui-même qui me l'avait raconté un après-midi où je lui demandais, à sa grande stupéfaction, si on lisait les livrets avant de les diffuser. Tu serais capable, toi, de lire 70 kilos de papier? Qui veut consacrer 2 mois à s'envoyer un feuilleton radiophonique? On s'en remet au hasard et jusqu'à présent, heureusement, le Seigneur des miracles nous protège. Mais ce système posait des problèmes au Gennaro. Durant le trajet de la Havane à Lima, dans le ventre des bateaux ou des avions ou à la douane, des rames dactylographiées se détérioraient. Des chapitres entiers étaient perdus. En studio, c'était source d'angoisse. La seule solution était alors de sauter le chapitre perdu, froidement, sans scrupule, ou, dans les cas graves, de faire tomber malade pour un jour Luciano Panno ou Josefina Sanchez. Comme en outre les prix de la CMQ étaient élevés, on comprendra aisément le bonheur de Gennaro Fils quand il découvrit l'existence et les dons prodigieux de Pedro Camacho, le célèbre feuilletoniste bolivien qu'il venait d'embaucher. Je me rappelle fort bien le jour où il me parla de ce phénomène radiophonique parce que c'est ce même jour, à l'heure du déjeuner, que je vis pour la première fois Tante Julia.
Je viens de nous engager l'as des as, l'homme providentiel, libre de droit, le génie du siècle.
Ah oui, pour les infos?
Non. Pourquoi quelqu'un pour les infos? Tu es là? Oh non. Non, pour les rois, pour le feuilleton. Prêt, fiston? Oh, nous avons Pedro.
Tante Julia. C'était la sœur de la femme de mon oncle Lucho et elle était arrivée la veille au soir de Bolivie. Divorcée de fraîche date, elle venait se reposer et se remettre de son échec conjugal. En réalité, chercher un autre mari avait décrété lors d'une réunion familiale la plus mauvaise langue de la famille, la tante Hortensia. Je déjeunais tous les jeudis chez l'oncle Lucho et la tante Olga. Et ce midi-là, je trouvais la famille encore en pyjama, interrompant une nuit courte avec des moules à la sauce piquante et de la bière froide. Ils étaient restés jusqu'au petit matin à papoter avec la nouvelle venue et avaient liquidé à eux trois une bouteille de whisky. Ils avaient mal à la tête, mon oncle Lucho se plaignait que la maison était sans dessus-dessous, ma tante Olga disait que c'était une honte de veiller si tard en dehors des samedis, et la nouvelle venue, en robe de chambre, nu-pieds et des bigoudis sur la tête, vidait une valise. Elle ne fut pas gênée que je la voie dans cette tenue négligée, où nul ne l'aurait prise pour une reine de beauté. « Alors, Marito, tu es le fils de Dorita, » me dit-elle en m'appliquant un baiser sur la joue. « Tu as fini tes années de collège, non ?» Je me mis à la détester. Mes légères frictions avec ma famille en ce temps-là venaient de leur entêtement à tous à me traiter encore comme un enfant et non comme ce que j'étais, un homme accompli de 18 ans. Qu'on m'appelle Marito m'irritait au plus haut point. J'avais l'impression que le diminutif me ramenait aux culottes courtes. « Il est maintenant en première année de droit et il travaille comme journaliste », lui expliquait mon oncle Lucho en me donnant un verre de bière. « À dire vrai, » dit tante Julien en me donnant le coup de grâce, « tu as encore l'air d'un bébé, Marito. » Et d'ajouter que je ferais mieux, dès que je pourrais, de me laisser pousser la moustache. Parce que ça allait bien au brun, et que ça me faciliterait les choses avec les filles. Il ne pense ni au jupon ni à la bringue, lui expliqua mon oncle Lucho. C'est un intellectuel. Il a publié une nouvelle dans le supplément du dimanche de El Comercio. Eh, attention, il faudrait pas qu'il se retrouve du côté de la jaquette, se mit à rire tante Julien. Pendant le déjeuner, elle ne fit que raconter d'horribles blagues boliviennes et me taquiner. Au moment où je partais, elle voulut, semble-t-il, se faire pardonner ses méchancetés parce qu'elle me dit d'un air aimable de l'emmener un soir au cinéma, car le cinéma l'enchantait. Je fus fort surpris que tante Julia, bien que bolivienne et vivant à La Paz, n'ait jamais entendu parler de Pedro Camacho. Mais elle me précisa qu'elle n'avait jamais écouté un feuilleton radio ni mis les pieds dans un théâtre depuis qu'elle avait interprété un rôle la dernière année de ses études au collège des Sœurs Irlandaises. Et n'aie pas le front de me demander combien d'années y a de cela, Marito. Nous marchions de chez l'oncle Lucho en direction du cinéma Barranco. Elle m'avait imposé l'invitation elle-même ce midi-là. C'était le jeudi qui avait suivi son arrivée. Et bien que la perspective d'être à nouveau victime de ces plaisanteries boliviennes ne m'enchantait pas, je ne voulus pas manquer le déjeuner hebdomadaire. J'avais l'espoir de ne pas la trouver car la veille, j'avais entendu la tante Hortensia confier sur le ton de celle qui se trouve dans le secret des dieux. Pour sa première semaine à Lima, elle est sortie avec 4 amoureux différents, dont l'un marié. Cette divorcée allait dans l'ongle. Ce midi-là, donc, Tante Julia se tourna vers moi, qui voyait mon destin nocturne se jouer, et me lança cette fleur exquise. « Ne t'inquiète pas pour l'argent, Marito, c'est moi qui t'invite. » Et nous voilà cheminant sur l'obscur ravin Armandaris, sur la large avenue Grau, à la rencontre d'un film qui, pour comble, était mexicain et s'appelait « Mère et maîtresse ». Mario Vargas Llosa.
Le roman ne peut pas exprimer la réalité comme un document historique ou sociologique ou scientifique. Je crois que le roman est une transgression de l'objectivité, que le roman est une réponse critique à la réalité, au réel.
Si l'amour et la vocation littéraire vont de pair chez le jeune écrivain, quittons désormais le registre romanesque et ouvrons l'un des essais que Mario Vargas Llosa consacre au métier d'écrivain. C'est au cours de son mariage avec Julia que le jeune Varguitas, comme elle le surnomme, rédige son premier roman, La ville et les chiens. L'année suivante, en 1964, l'écrivain se sépare de Julia et épouse sa cousine Patricia, de 9 ans sa cadette, qui sera la compagne de sa vie. De sa seconde épouse, Vargas Llosa aime à répéter cette phrase « Mario, tu ne sers qu'à une chose, écrire ». Car selon lui, l'écriture est bien plus qu'une vocation, une passion exclusive, un esclavage consenti. Telle est la définition qu'il en donne dans un ouvrage qui prend la forme d'une correspondance fictive et qui s'intitule « Lettre à un jeune romancier » publié en 1997. Si le roman est un striptease à l'envers, la fiction y apparaît comme l'envers de la réalité. « Mon cher ami, votre lettre m'a ému. En effet, à travers elle, je me suis revu à 14 ou 15 ans dans la grise lima de la dictature du général Audrien, brûlant du désir d'être un jour écrivain. Découragé aussi, parce que je ne savais comment faire ni par où commencer pour concrétiser cette vocation impérieuse qui me poussait à écrire des histoires capables d'éblouir leurs lecteurs, comme m'avait ébloui celle de ces écrivains peuplant déjà mon panthéon privé, Faulkner, Hemingway, Malraux, Dos Passos, Camus, Sartre. Avoir la vocation est peut-être pour l'écrivain sa meilleure récompense. Incertain sur la vocation littéraire, j'ai au moins cette certitude, l'écrivain, en son fort intérieur, sent qu'écrire est ce qui lui est arrivé et peut lui arriver de mieux. Car écrire représente pour lui la meilleure façon possible de vivre. Comment peut-on être écrivain? Sujet mystérieux, certes. Plein d'incertitudes et de subjectivité. Personne aujourd'hui ne parle ainsi de la vocation littéraire ou artistique, mais pour être moins grandiose ou fatidique, l'explication n'en reste pas moins fumeuse. Une obscure prédisposition chez certains hommes et femmes à vouer leur existence à une activité pour laquelle un jour ils se sentent appelés, forcés presque de l'accomplir. Naturellement, de cette propension à s'écarter du monde réel, de la vie véritable, sur les ailes de l'imagination, à l'exercice de la littérature, il y a un abîme que la plupart des gens ne parviennent pas à franchir. Ceux qui deviennent créateurs de mondes par la parole écrite, les écrivains, sont une minorité qui, à cette prédisposition ou tendance, ont ajouté ce mouvement de la volonté que Sartre appelait un choix. Ils se sont choisis pour tel. Vous traversez aujourd'hui cette épreuve, mon ami. L'heure ardue et passionnante où, non content d'imaginer une réalité fictive, vous la matérialisez par l'écriture. Si vous décidez de le faire, vous aurez franchi un pas important, certes, mais sans garantie sur votre avenir d'écrivain. D'où vient cette disposition précoce à inventer être et histoire, point de départ de la vocation d'écrivain? Je crois que la réponse est la révolte. Je suis convaincu qu'en divaguant sur des vies hors de la réalité, l'écrivain manifeste indirectement un refus critique de la vie et du monde véritable et un désir de le peindre suivant son imagination et ses désirs. Peu importe la nature de ce questionnement essentiel de la réalité véritable qui, selon moi, fonde toute vocation de créateur d'histoire, L'important est que ce refus soit assez radical pour nourrir cette dynamique opération, aussi quichotesque que de charger lance en arrêt contre des moulins à vent, qui vise à remplacer illusoirement le monde concret et objectif de la vie vécue par celui subtil et éphémère de la fiction. Car la fiction est un mensonge qui recouvre une vérité profonde. Elle est la vie qui n'a pas été, celle que les hommes et femmes d'une époque donnée ont désirée sans l'obtenir, d'où leur obligation de l'inventer. La fiction n'est pas le portrait de l'histoire, plutôt son envers, le revers de la médaille, ce qui, n'ayant pas eu lieu, a dû justement être créé par l'imagination, par les mots, afin de combler les vides qu'hommes et femmes découvraient autour d'eux et tâchaient de peupler avec les fantômes qu'eux-mêmes fabriquaient. Par ailleurs, c'est finalement une révolte assez pacifique, car quel mal cela peut-il faire à la vie réelle que de lui opposer les vies impalpables des fictions ? Il s'agit d'un jeu, n'est-ce pas ? Mais revenons à vous. Vous avez senti dans votre fort intérieur cette prédisposition, fait acte de volonté et décidé de vous consacrer à la littérature. Et maintenant, eh bien, ce goût pour la littérature, votre destin, vous l'assumerez comme une servitude, un esclavage, rien de moins. Car la vocation littéraire se nourrit de la vie de l'écrivain ni plus ni moins que le long vers solitaire des corps qui l'envahit. Écrire, c'est une façon de vivre, disait Flaubert. En d'autres termes, celui qui fait sienne cette belle, cette absorbante vocation, n'écrit pas pour vivre, mais vit pour écrire.
Je serais assez tenté par l'écriture.
Toi, tu serais assez tenté par l'écriture.
Oui.
Il serait assez tenté par l'écriture. Eh bien, sache que ce genre de job, c'est tout sauf un truc qui tente. On est élu, appelé. On n'a aucun choix, mon bonhomme.
Ah oui, c'est tout à fait ce que je ressens.
Nous, écrivains, Martin, on n'a pas droit à la paresse. Il faut qu'on redonne à la réalité sa force d'impact.
No tienes que darme cuenta. A ciegas yo te crío. Ya voy por el mundo a tientas. Desde que te conocí yo, llevo una venda en los ojos. Como pintan a la fe, no hay dolor como esta gloria de estar cayendo. Muchas noches sentía cercano ya el día tus pasos en la casa. Gracias a Dios que has llegado, que no te ha pasado ninguna cosa mala. En tus manos una loma que caminaba como el clave, pero yo lo echaba a broma porque era esclavo de tu querer. Pa' no ver contigo y con tú.
Le temps a passé, le jeune Vargitas est devenu un grand écrivain et un grand intellectuel sensible à l'évolution des époques. Amoureux des femmes, Mario Vargas Llosa est aussi un amoureux de la culture sous toutes ses formes. Journaliste pigiste, auteur de feuilletons radio à Lima, puis à la RTF à Paris dans les années 60, il a aussi été critique de cinéma, puis auteur de scénarios. Son roman « La guerre de la fin du monde » a d'abord été un projet de film qui ne s'est jamais réalisé. Il a écrit des pièces de théâtre aussi, ainsi que des essais sur les grands écrivains qui l'ont inspiré, Flaubert, Hugo. Son dernier essai, « La civilisation du spectacle », paru en 2015 chez Gallimard, déplore à l'ère des médias la disparition de la culture au profit du seul divertissement. Face à ce constat désabusé, l'intellectuel défend la légitimité de la bonne littérature et le rôle vital de l'écrivain comme dernier dinosaure. Je peux affirmer en connaissance de cause que tous les bons films que j'ai vus dans ma vie et qui m'ont tant distrait ne m'ont pas aidé le moins du monde à comprendre le labyrinthe de la psychologie humaine comme l'ont fait les romans de Dostoïevski, les mécanismes de la vie sociale comme Guerre et paix de Tolstoï ou les abîmes de misère et les cimes de grandeur qui peuvent coexister dans l'être humain comme me l'ont appris les sagas littéraires d'un Thomas Mann, d'un Faulkner, d'un Kafka, d'un Joyce ou d'un Proust. Les fictions des écrans sont intenses dans l'immédiat et éphémères dans leurs résultats. Des fictions littéraires, nous sommes prisonniers à vie. Car ce qui est important dans les bonnes lectures est toujours postérieur à la lecture, a un effet déflagrateur dans la mémoire et le temps. Cela m'arrive encore parce que sans elle, en bien ou en mal, je ne serais pas tel que je suis, ni ne croirais en ce que je crois, et ne connaîtrais pas ces doutes et ces incertitudes qui me font vivre. Ces livres m'ont changé, m'ont modelé, m'ont fait, et continuent encore de me changer et de me faire, incessamment, au rythme d'une vie à laquelle je les compare. J'ai appris en eux que le monde est mal fait et qu'il sera toujours mal fait, ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas faire notre possible pour l'empêcher d'être pire, que nous sommes inférieurs à ce que nous rêvons et vivons dans la fiction, et qu'il y a une nature que nous partageons dans la comédie humaine dont nous sommes acteurs, qui, dans notre diversité des cultures, de races et de croyances, fait de nous des êtres semblables et devrait nous rendre aussi solidaires et fraternels. Ouvrir les yeux, propager l'indignation face à l'injustice et au crime, et l'enthousiasme pour certains idéaux, prouver qu'il y a place pour l'espoir dans les circonstances les plus difficiles, c'est quelque chose que la littérature a toujours su faire et qu'elle doit continuer à faire. Que l'écrivain s'engage ne peut vouloir dire qu'il renonce à l'aventure de l'imagination ni aux expériences du langage, ni qu'il se brouille avec le rire, le sourire ou le jeu parce qu'il tiendrait le devoir de distraire pour incompatible avec la responsabilité civique. Distraire, séduire, éblouir, c'est ce qu'ont toujours fait les grands poèmes, le théâtre, le roman et l'essai. Il n'y a d'idées, de personnages ou d'anecdotes de la littérature qui ne vivent et ne durent s'ils ne sortent comme le lapin d'un chapeau de l'illusionniste, des passes magiques d'un enchanteur. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'accepter le défi que cette fin du millénaire nous lance, à tous, et dont nous ne pouvons nous exclure, femmes et hommes voués aux activités culturelles. Allons-nous survivre ? Deux modèles me reviennent à l'esprit. L'image de Walter Benjamin, en exil en France, étudiant ardemment la poésie de Baudelaire quand l'Europe entière s'apprêtait à succomber sous l'avancée irrésistible des armées nazies. Celle aussi émouvante du philosophe Karl Popper, qui pendant ces mêmes années, dans son exil de l'autre côté du monde, en Nouvelle-Zélande, se mettait à apprendre le grec classique et étudier Platon comme, ce sont ses propres mots, contribution personnelle à la lutte contre le totalitarisme. Benjamin et Popper, le marxiste et le libéral, sont deux exemples prouvant comment, en écrivant, on peut résister à l'adversité, agir, influer sur l'histoire.
Modèle d'écrivain engagé, je les cite pour finir comme l'évidence que même si l'air se raréfie et que la vie ne leur est pas propice, les dinosaures peuvent se débrouiller pour survivre et être utiles dans les temps difficiles.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestudia avec Jean-Richard Dufour à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura El Maki. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.